Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, et comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires. Idées Noires, c'est l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Rebelle des radios, on vous le disait à l'instant, vous êtes à l'écoute de l'émission Idées Noires, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h. L'émission Idées Noires, c'est l'émission du groupe local de l'Union Communiste Libertaire, l'UCL. UCL que vous pouvez retrouver à la librairie La Plume Noire, qui est toujours située sur les pentes de la Croix-Rousse, au 8 rue Diderot, librairie libertaire et autogérée par les militantes et militantes de l'UCL, auxquelles vous pouvez passer pour nous rencontrer, échanger, discuter des luttes en cours, et puis vous documenter en livres, revues, brochures, journaux, tracts, tout ce que vous voulez sur toutes les thématiques qui sont liées de près ou de loin autour de notre courant et des différentes luttes dans lesquelles il est impliqué. La librairie La Plume Noire, c'est le mercredi de 17h30 à 19h30, juste avant cette émission de radio, et puis le samedi après-midi de 15h à 17h, sauf manifestation qui fait qu'on ouvre un peu plus tard.
15h à 19h.
15h à 19h, pardon, bien sûr, j'ai raccourci la permanence. 15h à 19h le samedi, bien entendu. Traditionnellement, dans cette émission Idées Noires, on commence par quelques rendez-vous et quelques annonces.
Oui, on va commencer, parce qu'on est en plein dedans, par la semaine de résistance face à l'expulsion de l'ECG, l'espace communal de la Guillotière, qui a ouvert en 2019 et qui entame une ligne droite décisive, puisque le 1er avril 2024, il y a à peine deux jours, l'ECG et l'annexe sont devenus légalement expulsables. Le CG, c'était un lieu important, même emblématique de Lyon, un lieu de lutte, un lieu de rencontre, un abri même pour certaines personnes. C'est aussi un lieu de contestation au sein d'un quartier qui se gentrifie de plus en plus. Et dans ce contexte, le CG et son annexe ont tenu à être des lieux d'auto-organisation pour le quartier. Ils ont organisé des activités gratuites, à prix libre, ouvertes à toutes et tous. Une distribution alimentaire autogérée, une marche rouge, des cours de français, des séances de sport, même des cours de danse ou d'informatique. Voilà, donc pour que ce lieu survive, les bénévoles et les camarades vous invitent à différents événements en soutien. Ça a commencé mercredi dernier, le 27 mars, mais pour ce qui est à venir, déjà dès ce soir, il y a une cantine et une soirée anti-CRA, la cantine qui est à destination des camarades interpellés. Demain, à partir de 7h...
Les CRA, rappelons-le, sont les centres de rétention administrative.
Centres de rétention administrative des prisons, en quelque sorte, pour des personnes sans papier en vue d'une expulsion. Demain donc, à partir de 7h, un petit déj et un accueil, à 10h l'AG, à 12h une cantine, à 20h encore une cantine, il y a beaucoup de choses à manger visiblement là-bas, et la présentation surtout donc à 20h jusqu'à 23h d'un livre par le collectif Mémoire Minoritaire. Vendredi donc dernière journée pour cette semaine de soutien avec toujours à partir de 7h un petit déjeuner, à midi un repas, et le soir aussi repas partagé, temps partagé, beaucoup de discussions sur comment faire en sorte que ce lieu perdure et ne ferme pas.
L'espace communal de la Guillotière.
Et ensuite, deux annonces qui nous concernent directement, puisque ce sont des événements organisé par l'UCL le 20 avril, donc à la Plume Noire à 17h. Il y aura la lecture collective et une discussion débat autour du texte pour une contre-offensive trans. C'est un texte publié par l'UCL qu'on vous a déjà présenté dans cette émission. Un texte que l'UCL souhaite mettre en avant. La grande cause du quinquennat, on pourrait dire, hein, si on était Macron. Sauf qu'à l'inverse de lui, on va pas le cacher sous le tapis. On souhaite véritablement mettre cette lutte pour les droits des personnes trans en avant. On vous convie donc à venir découvrir ou redécouvrir ce texte et à en discuter dans un contexte où les offensives contre les droits des personnes trans sont actuellement constamment attaquées, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. En France, par exemple, en ce moment, il y a un projet de loi au Sénat qui vise à rendre plus compliqué le changement de genre. Un projet de loi qui est rempli de biais transphobes et pour lequel la sénatrice des Républicains Jacqueline Eustache-Brinio a interrogé des associations et personnalités ouvertement opposées aux droits des personnes trans. Donc voilà, pour une contre-offensive de plus en plus nécessaire, on vous invite à La Plume Noire, notre librairie et lieu militant que tu as décrit, David, qui est donc, je le rappelle, au 8 rue Diderot, dans les pentes de la Croix-Rousse. Voilà, donc discussion pour mettre en œuvre des actions collectives afin de défendre les droits des personnes trans. Ce sera le 20 avril à 17h.
Et puis un peu plus d'un mois plus tard, on aura largement le temps de vous en reparler, mais on va vous le rabâcher jusque-là, et puis pour vous fassiez une grosse croix rouge et noire dans votre agenda. Ça sera les 25 et 26 mai prochains, ça sera le retour de OTAF, la deuxième rencontre nationale des syndicalistes autogestionnaires et libertaires, à l'initiative du groupe local de l'UCL Lyon, une rencontre nationale ouverte à tous et à toutes, tous ceux qui sont syndicalistes, qui militent dans le monde du travail ou qui s'y intéressent et qui aimeraient savoir un peu plus. Deux jours de débats, d'échanges autour de nombreux thèmes. Par exemple, quel syndicalisme pour les luttes trans, justement, la syndicalisation des secteurs féminisés, la construction et l'unification d'un syndicalisme de lutte, les pratiques syndicales et la sociabilité ouvrière, ou encore l'outil syndical pour un écologisme de classe. Voilà autant de tables rondes qui seront organisées avec de nombreux intervenants et intervenantes sur ces deux jours. On vous donnera tout le détail plus précisément quand on s'approchera de la date, mais ça se passera à Lyon, dans le 8e arrondissement, à la salle des Italiens. Mais notez déjà les dates, samedi 25 mai et dimanche 26 mai, au TAF, deuxième édition, deuxième rencontre nationale des syndicalistes autogestionnaires et libertaires à Lyon, ouvert à toutes et tous.
On enchaîne sur... cette semaine, en fait, je voulais vous parler des street medics. Ces personnes qui arborent fièrement une croix blanche sur leur casque et qui sont là pendant les manifs pour prodiguer des soins à celles et ceux qui manifestent. Bien, il y a un groupe basé à Lyon qui s'est créé en 2017, un groupe queer d'inspiration anarchiste aux pratiques autogestionnaires et qui porte des valeurs féministes, antiracistes, antifascistes, anti-LGBT-phobie, donc des thématiques qui nous parlent forcément beaucoup. Et bien, ce groupe de street medic qui s'appelle Medic Action, qui travaille à la sensibilisation et à la formation des pratiques de premier secours et à l'autodéfense en contexte hostile, comme on dit, donc les manifestations, les ZAD, les émeutes par exemple. Tout ça pour permettre leur autonomie via la création, la traduction et la mise en forme de ressources existantes ainsi que par le biais de formations. Et c'est justement ce qu'ils et elles ont fait en sortant récemment une brochure qui sensibilise et explique et donne quelques conseils si vous aussi vous souhaitez devenir street medic. Et si vous ne le souhaitez pas spécialement, ou si vous n'avez pas trop l'habitude des manifs, ou justement si vous avez un peu trop l'habitude des manifs au point d'avoir perdu de vue les bonnes pratiques qui permettent d'assurer la sécurité de toutes et tous, eh bien ce fascicule fournit quelques conseils qui pourront justement vous être fort utiles. Déjà dans cette brochure, on apprend qu'être street medic, c'est d'abord 70% de connaissance des manifs. Il faut connaître les armes et les méthodes des forces de l'ordre, ou encore le fonctionnement et la logique des foules. Il y a 20% de sens humain. Il faut savoir réagir au stress provoqué par les blessures et rassurer les victimes dans un environnement angoissant, voire hostile, donc comme il et elle le disent. Il faut aussi savoir se gérer soi-même et gérer ses camarades. Et les 10% restants, évidemment, ce sont les soins. Il faut connaître certains protocoles pour éviter d'aggraver une blessure et puis dispenser les premiers secours. À niveau protection, la brochure explique comment se protéger, évidemment, la tête, les yeux, les voies respiratoires. et aussi comment se signaler en tant que street medic. Et là, il faut peser le pour et le contre en quelque sorte, puisque si certains flics sont plus conciliants avec les street medics, d'autres vont justement les cibler compte tenu de leur rôle dans les manifs. Niveau cadre légal, ça je l'ignorais, il et elle s'exposent en théorie à des poursuites pour exercice illégal de la médecine dans la rue. Sauf que dans les faits, apporter les premiers secours ne tombe pas sous le coup de la loi. Donc pour éviter tout souci, il est conseillé de ne pas effectuer de gestes médicaux lourds, comme par exemple faire des points de suture en pleine rue. Et puis quand le moment est venu d'intervenir, la brochure explique comment se comporter en tant que street medic, notamment face à la panique, face aux forces de l'ordre et face aux nombreux types de blessures auxquelles on va faire face. Alors ce document, il ne fait pas office de formation, bien évidemment, il ne suffit pas de le lire pour tout à coup être opérationnel, mais il explique bien à quoi s'attendre et fournit plein de ressources, notamment des conseils légaux. Des sites comme Désarmons-les ou Flagrant Déni qui dévoilent les méthodes et équipements de la police, ainsi que des liens vers des sites qui prodiguent des conseils quant à la gestion des risques psychologiques. C'est important, mais on l'oublie souvent, hein, l'un des principaux risques dans une manifestation, c'est aussi la panique. Donc voilà. Alors évidemment, en tant que manifestante ou manifestant, on peut que saluer le taf qu'il et elle accomplissent dans la rue. Les flics, eux, ne sont pas là, ne sont jamais là pour nous protéger. Les flics protègent les bâtiments, on le voit quand on passe devant la rue de la Barre et l'ancien Hôtel Dieu transformé en centre commercial. Les flics protègent les institutions, on le voit aussi quand on passe près de la préfecture dans les manifestations, mais personne n'est là, à part les services d'ordre syndicaux et les street medics, justement, pour protéger les manifestantes et manifestants des grenades de désencerclement, des gaz lacrymogènes, des jets d'eau ou des coups de matraque. Donc, merci à elles et eux. Voilà, donc depuis la réforme des retraites, hein, on n'est plus vraiment descendu massivement dans la rue. Donc, ces petits conseils, ils font aussi piqûre de rappel pour n'importe quelle manifestante ou manifestant. Bien, même si on n'est pas street medic, histoire qu'on rouille pas trop et qu'on ne perde pas les bonnes habitudes et les bonnes pratiques de vue. Donc voilà, si vous souhaitez rejoindre ou du moins savoir comment bien agir dans ce genre de situation pendant une manif, allez faire un tour du côté de leur site internet, c'est sur medicaction.org.
Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va parler un peu de manifestation et de mobilisation comme d'habitude dans cette émission. On va revenir notamment sur les mobilisations dans le monde de l'éducation. Mais avant, la grève qui avait lieu d'ailleurs hier un peu partout en France avec plus de 80 rassemblements. Mais avant ça, on va faire une première pause musicale dans cette émission Idées Noires, cette émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On va retrouver un morceau qu'on aime beaucoup. On va retrouver le ministère des Affaires Populaires qui nous chante « Appelle-moi camarade ».
Rebelle infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, si t'as compris France Fanon, appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages quand t'as un flic te dévisage, si t'étouffes comme un tolard dans sa cage, appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent, reste lucide parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise, si tu penses qu'on est du même côté de la barrière, du même côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien, tu peux m'appeler mon frère. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade.
Appelle-moi camarade, parce que mes larmes sont les tiennes sont les miennes, bref nos peines sont les mêmes, on se démène pour éviter l'abattoir. Ouais je me démerde, merde, sans perdre de vue l'étoile qui m'a dit pas toi. Je manie la plume comme Marcos, la rage d'une cassos, prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause. Je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fratrie, issue d'une génération endormie par la matrice, enfant de l'insomnie, bordé par le macadam, percé par le vague à l'âme. Appelle-moi camarade, cause d'un monde bien malade, où tout le monde s'en bat la rage, braque les haut-parleurs avec des rimes dans lesquelles parle la rage. Anti-norme, impossible à encarter, autonome comme les anarachrans, comme les frères de quartier. C'est l'heure de s'unir car l'urgence nous rattrape, dans le meilleur ou dans le pire, on est ensemble camarades.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre,
propagé nos idéaux. Ils ont canassé nos révoltes, ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Ils ont jugé que nos colombes obscurcissaient leur ciel et les ont toutes butées de leur sang. Ils ont fait leur miel. Silence on tue, silence on assassine. On élimine tous ces illuminés qui voudraient changer le scénario du film. Leurs dessins, on les connaît par cœur. Je veux pas te refaire le tableau. Ce monde est hardcore. Patrie, pétrole et pouvoir, leur chef-d'œuvre du grand art. Y'a qu'à regarder pour voir. On est mort sans savoir, comme asphyxié. En perte d'oxygène, comme enchaîné à la destinée de ces cités où la bourse règne. J'étouffe, j'aimerais tellement changer d'air. Mais au fond de moi, je sens bien que c'est ce putain d'air qu'il nous faut changer. C'est une simple question de survie, bien plus qu'une croisade. Armée de l'ombre en embuscade, pas moi, camarade.
Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade.
Appelle-moi camarade, le ministère des Affaires Populaires, MAP, sur ce 102.2 de Radio Canu. Vous êtes toujours et encore à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire de l'UCL, et ce jusqu'à 21h, comme tous les mercredis soirs. On vous le disait juste avant la pause musicale, on allait faire le point un peu sur certaines mobilisations sociales, et notamment revenir sur la grève qui a eu lieu au plan national hier, mardi 2 avril, partout en France, dans le monde de l'éducation. Une mobilisation enseignante contre la réforme, le projet de réforme dite du choc des savoirs qui vise à rendre encore un peu plus inégalitaire l'école publique. Ça fait déjà un petit moment que ce projet de choc des savoirs est dénoncé par à la fois les travailleurs de l'éducation nationale, mais aussi les parents d'élèves. Mais encore une fois, le gouvernement a décidé de à son habitude depuis un moment, de passer en force, puisque les arrêtés et les décrets ont été publiés le 17 mars dernier, et puis une note de service a été publiée dans la foulée le 18 mars pour amorcer la mise en place de ce projet pour la rentrée prochaine. On vous le rappelle, hein, un projet qui vise à organiser et mettre en place des groupes de niveau pour les classes de 6e et 5e, c'est-à-dire pour les deux niveaux d'entrée au collège dès la rentrée prochaine, donc très concrètement à travers la mise en place de groupes, de trois groupe de niveau dans les cours de français et de mathématiques. Eh bien, il s'agit de trier les élèves, ce qui va inévitablement creuser encore une fois un peu plus les inégalités, comme l'a montré toutes les recherches pédagogiques et sociales, puisqu'on sait que l'hétérogénéité des élèves, au lieu d'être un frein, est bien souvent une chance, permet le co-apprentissage, permet de s'entraider, permet de progresser ensemble, d'échanger, et puis que parfois, on est en difficulté sur certaines choses, en réussite sur d'autres, et que c'est pas figé, que c'est pas sur tous les thèmes, et que les faibles et les bons, comme voudraient étiqueter cette réforme, et c'est quelque chose qui peut être fluctuant, et c'est une richesse. Et ça sera bien autre chose qui sera mis en place avec cette réforme du choc des savoirs et cette mise en place de ces fameux groupes de niveau. Ça sera bien au contraire une école du tri social que la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet et le Premier ministre Gabriel Attal ont décidé de mettre en place, puisque trier, sélectionner les élèves. Et puis pour les travailleurs et personnels de l'éducation nationale, on sait que derrière la soi-disant promesse d'une plus grande flexibilité, en fait ce sont des réalités de contraintes d'organisation et de contraintes pédagogiques qui vont lourdement fragiliser la liberté pédagogique du monde enseignant, et puis qui vont casser la relation forte que ceux-ci peuvent avoir avec l'ensemble d'une classe et la continuité de suivi des élèves dans un groupe classe qui est aussi un lieu de sociabilité, puisque les élèves d'une même classe se retrouveront ensemble dans certaines disciplines, et puis en mathématiques, en français, ils seront éclatés dans ces fameux groupes de niveau, groupes de besoins. Quelque part, c'est l'essence même de la classe qui est remise en cause. C'est des groupes de niveau, des groupes de besoins, mais c'est quelque part des classes de niveau aussi qui vont se dessiner derrière tout ça. Donc c'est pour protester contre cette réforme dite du choc des savoirs que Depuis déjà le début de l'année, les travailleurs et travailleuses de l'éducation nationale se sont mobilisés. Il y a eu plusieurs journées de grève en début février. Il y a eu des actions locales, il y a eu des votes contre avec des motions déposées dans les conseils d'administration des collèges. Il y a eu des réunions publiques avec les parents d'élèves. Il y a eu des opérations collèges mortes qui se sont multipliées par dizaines à pas mal d'endroits. Et il y a eu une campagne intersyndicale qui a été menée aussi pour tenter de faire bouger les lignes. Pour mener avec détermination une bataille des idées sur cette question des groupes de niveau qui rassemblent une grande partie de la profession enseignante, mais aussi, comme on le disait, des parents d'élèves dans cette mobilisation. Et du coup, bah, des établissements se sont mobilisés partout en France. Dans le Rhône, ça a été particulièrement le fait des établissements dits de REP+, c'est-à-dire les réseaux d'éducation prioritaire, les établissements qui sont confrontés au public les plus en difficulté et qui, eux, se voient doublement punis parce que, d'une part, ils vont devoir, comme tous, trier leurs élèves en les mettant dans des groupes de niveau. Mais ces établissements prioritaires à qui il y avait un principe d'équité sociale qui faisait qu'on donnait plus de moyens pour permettre de mettre leurs élèves issus de milieux défavorisés, plus en situation de réussite, eh ben, se voit aujourd'hui appliquer une logique tout autre, qui est celle de l'inverse de Robin des Bois. Cette fois-ci, c'est prendre aux pauvres pour donner aux riches, une logique toute libérale et capitaliste, puisque au nom de la mise en place de ces groupes de besoins dans tous les établissements, eh ben, on retire les moyens spécifiques qui étaient donnés aux établissements de réseaux d'éducation prioritaire pour redispatcher tous ces moyens sur l'ensemble des établissements pour la mise en place des groupes de besoins. C'est pour ça qu'il y a eu un réseau d'éducation prioritaire qui n'a cessé de se mobiliser contre l'école du tri social depuis le début de cette mobilisation. On voit que face à tout ça, le gouvernement, il est fébrile. Il en vient à passer en force, comme on le disait, en publiant des textes au mépris de la vie de la profession, ce qui est inacceptable et irresponsable à la fois. Mais cette fébrilité, elle montre que la mobilisation, elle a du sens. Et qu'il va falloir que les personnels de l'éducation nationale continuent à l'amplifier au cours des semaines à venir, même si les vacances de printemps arrivent très rapidement dès la fin de cette semaine pour la région parisienne et puis pour les autres académies la semaine d'après. Mais c'est extrêmement important parce qu'on se rend compte que le gouvernement il cherche à imposer un modèle d'école qui finalement du collège au lycée vise à faire sortir de l'école publique le plus tôt possible et à chaque étape de leur scolarité les élèves des classes populaires pour les envoyer sur le marché du travail et pour les livrer comme main d'œuvre exploitable, comme chair à patron aux entreprises, que les seules réponses que ce gouvernement a, c'est d'ériger l'uniforme et le SNU, le service national universel, au rang des priorités politiques et budgétaires, et qu'à travers toutes ces mesures, le gouvernement il fait un choix clair. Ce choix clair, c'est celui d'une école du tri social, d'une école passéiste et conservatrice et qui correspond absolument pas à ce que peut être l'émancipation de la jeunesse, que aujourd'hui le monde enseignant mais aussi les parents et les familles peuvent avoir une autre ambition pour la jeunesse qui est pas celle qui est portée par ce gouvernement qui, en supprimant des postes et en refusant de donner des moyens nécessaires pour fonctionner, fait bien au contraire le choix de l'austérité. Donc face à ça, il faut un plan d'action dans la durée, pour gagner, et c'est ce que on espère que l'intersyndicale va poursuivre en appelant à mettre en débat des reconductions de grève là où c'est possible. On sait qu'il y a certains secteurs qui l'ont mené en posant des heures d'information syndicale, des rencontres avec les parents d'élèves et puis en multipliant les actions de grève. En tout cas, hier, la journée de grève a été une journée qui a été un relatif succès avec près de 40% de grévistes dans les collèges, c'est-à-dire dans le second degré, là où cette réforme va particulièrement s'appliquer. C'est une mobilisation qui était légèrement en baisse par rapport à celle qui avait eu lieu en février dernier, le 1er février dernier, sur ce même thème, où il y a eu 47% de grévistes cette fois-ci dans les collèges. Mais c'est une mobilisation qui est très disparate, c'est-à-dire que voyez eu près de 80 manifestations et rassemblements en France, avec des taux très variables de grévistes. À certains endroits, il y a des collèges qui ont atteint 75 à 80% de grévistes. Il y a des établissements où les personnels sont en grève reconductible depuis déjà un certain moment. C'est notamment ce qui se passe en Seine-Saint-Denis dans le 93, ou à Paris d'ailleurs, la manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers d'enseignants a vu le cortège de tête être gagné par les enseignants du 93 de la Seine-Saint-Denis, qui sont donc, on vous le dit, en grève mobilisée, reconductible depuis maintenant 6 semaines. On va en reparler de cette situation spécifique et cette urgence à la fois éducative et sociale qui frappe la Seine-Saint-Denis et le 93. En tout cas, on voit que cette mobilisation, elle faiblit pas. Bien au contraire, elle est en train de s'ancrer, elle est en train de convaincre petit à petit et puis de gagner les parents à la cause qui se rendent bien compte de l'accroissement de l'inégalité, de la reproduction sociale que celle-ci va entraîner si elle passe. En tout cas, cette question du choc des savoirs, c'est une grève à suivre. C'est une grève à suivre qui risque d'animer le milieu de l'éducation au cours de ce printemps. Et puis qui sait, peut-être que si le gouvernement ne fait pas marche arrière, ça peut avoir des conséquences sur la rentrée prochaine avec peut-être une grève du zèle en septembre parce que les personnels peuvent freiner des cas de fer à mettre en place ces mesures. Ils peuvent décider de désobéir s'il le faut, c'est-à-dire de refuser de trier leurs élèves comme on le propose à la rentrée prochaine. Voilà, on vous en reparlera donc certainement de cette mobilisation enseignante contre ce choc des savoirs, contre cette école de l'inégalité et du tri social qui se renforce un peu plus avec ces mesures inégalitaires. On vous le disait, particulièrement à la pointe de ce mouvement, il y a les personnels enseignants de Seine-Saint-Denis du 93 qui, entament leur 6e semaine de grève reconductible. C'est-à-dire que très concrètement, ils ont démarré la grève au retour des vacances d'hiver et puis depuis, ils n'ont pas repris le boulot. Et là, ils vont être en vacances de printemps à la fin de cette semaine. Et ils ont tenu pour beaucoup d'entre eux durant toute la période entre deux et ils semblent déterminés pour poursuivre ensuite. Et puis plus que ça, ces enseignants aujourd'hui, ils ont une revendication qui dépasse la question du retrait des chèques des savoirs, de moyens et de postes pour l'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Ils sont en train d'impulser et de s'inscrire dans un mouvement plus général qui serait celui de réclamer un plan d'urgence pour tous les services publics du 93 sur le modèle de ce qui avait été réalisé en 1998, il y a maintenant 28 ans. Il y a 28 ans en arrière, rappelez-vous, pour ceux qui étaient déjà dans la mobilisation sociale, en 1998, les enseignants et les parents, mais aussi de nombreux lycéens de Seine-Saint-Denis avaient mené 3 mois de mobilisation et de grève derrière un même slogan qui était « On veut des moyens, on n'est pas des moins que rien ». Et derrière ce slogan « On veut des moyens, on n'est pas des moins que rien », le résultat avait été assez extraordinaire après ces 3 mois de lutte, puisqu'ils avaient obtenu en Seine-Saint-Denis l'embauche de 3000 enseignants, 5000 emplois jeunes, des créations de normes particulières sur les effectifs par classe et pour les écoles les plus en difficulté, et puis 5 milliards qui avaient été accordés pour la rénovation des bâtiments. Alors à l'époque, la lutte avait été menée par une coordination des établissements en grève qui fonctionnait en assemblée générale, en présence des responsables syndicaux enseignants et des parents d'élèves, notamment de la FCPE. Mais le mouvement en cours pourrait peut-être produire aussi sur le même modèle des résultats identiques et pourrait s'inspirer de ce qui avait été réalisé donc en 1998. On sait que depuis, l'État et les gouvernements successifs n'ont pas laissé se dégrader que l'école dans le département de la Seine-Saint-Denis. C'est en fait tout le système de santé qui est aussi délabré, que ça soit l'hôpital, les EHPAD, la santé mentale, les centres de santé municipaux. En fait, il manque des milliers de professionnels et des dizaines de structures d'accueil dans ce département. Vous me direz comme partout en France, mais particulièrement dans ce département qu'on sait être le plus pauvre de la France métropolitaine. Et puis au-delà de ça, c'est aussi dans les transports en commun où les habitants souffrent quotidiennement du délabrement des réseaux et des horaires inadaptés. Les travaux qui s'éternisent pour ouvrir de nouvelles lignes créent en fait des difficultés incompréhensibles. Et avec la densification de populations qui est voulue par les pouvoirs locaux et les promoteurs immobiliers, on sait que déjà ces travaux de transport en commun seront insuffisants au moment où ils ouvriront et au moment où ils se mettront en service. Tout comme sur la question du logement, dont on parlera un peu peu plus généralement un peu plus tard dans cette émission, où on sait que l'arnaque des plans de rénovation urbain est désormais sous les yeux de tous, c'est-à-dire qu'on a assisté à la destruction massive de logements sociaux, et puis à la place la construction de copropriétés déjà dégradées et une densification délirante et grignotant le peu d'espace vert qui était pourtant le seul espoir des habitants de ce secteur pour lutter contre le réchauffement climatique et les canicules urbaines. Du coup, on comprend les habitants de la Seine-Saint-Denis qui aujourd'hui refusent de vivre dans un ghetto géant, qui veulent une réindustrialisation pour avoir de vrais emplois et de vrais salaires, qui en ont assez de la précarité, des jobs au rabais qui leur sont souvent proposés, qui veulent la reconstruction d'espaces agricoles de proximité plutôt que de nouvelles chaînes de hard discount qui leur vendent des aliments industriels importés de toute la planète. En tout cas, c'est toutes ces raisons qui aujourd'hui, derrière la mobilisation des personnels enseignants qui sert de locomotive sur cette question du refus du choc de savoir et des moyens pour l'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis, c'est toutes ces raisons qui font que beaucoup appellent aujourd'hui à une mobilisation générale pour réclamer un plan d'urgence pour les services publics dans le 93. Un département en lutte, un département qui se mobilise et dont on ne manquera pas de continuer à faire le point sur l'état de la mobilisation et l'état de la lutte, et dont on ne peut que souligner et encourager les formes d'auto-organisation en assemblée générale, en coordination que prend celle-ci. Voilà ce qu'on voulait dire un petit peu sur le front des luttes de cette semaine. Et puis, malheureusement, quand on lutte, on s'expose. On risque aussi la répression. Et c'est notamment le cas de ce qui est arrivé à un militant CGTiste du Nord.
Oui, pour terminer cette page lutte sociale, on va aller faire un tour du côté du tribunal correctionnel de Lille. Puisque ce 28 mars avait lieu le procès de Jean-Paul Delescot, qui est secrétaire général de la CGT du Nord. Un procès pour apologie du terrorisme et provocation à la haine, rien que ça. Ce qui lui est reproché, c'est d'avoir tenu des propos visant, je cite, à justifier l'attaque du Hamas dans un communiqué publié par l'Union départementale du Nord en octobre dernier. Et ce sont les camarades du site Rapport de Force qui nous racontent ce procès. Ce 28 mars, donc, pendant près de 6 heures, magistrats et avocats sont livrés aux longs commentaires d'un communiqué de l'UDCGT du Nord intitulé « La fin de l'occupation et la condition de la paix en Palestine ». Ce communiqué fait suite à l'attaque du 7 octobre et il a été dépublié le 20 octobre à la suite du placement en garde à vue de Jean-Paul Delescot. Les quatre avocats des trois associations qui se sont portées partie civile ont plaidé pendant plus de 2 heures. La procureure s'est fendue d'un réquisitoire fleuve et ils sont unanimes par ce communiqué. Le CGTiste, en sa qualité de responsable de la publication du site internet de l'UD59, se rend coupable d'apologie du terrorisme. Et pour ce délit, le parquet a requis 1 an de prison avec sursis. À la barre, le syndicaliste rappelle, lui, les valeurs de solidarité, de paix et d'internationalisme de son syndicat. Et devant les magistrats, il qualifie l'attaque du 7 octobre de terroriste. Et c'est avec ce même mot qu'il qualifie aussi le Hamas. Donc difficile de penser qu'il puisse en faire l'apologie. Ses avocats aussi emploieront ce terme tout au long de l'audience. Ari Halimi, justement, l'un de ses avocats, explique d'ailleurs que depuis le début de cette audience, on nous parle du Hamas. Les avocats de la partie civile nous disent qu'il est comparé à la résistance dans le communiqué, sauf que ni le mot Hamas, ni le mot résistance ne figurent dans le communiqué. Pourtant, l'avocat de la partie civile expliquait les actes du 7 octobre, même en les mettant en perspective avec l'occupation israélienne de la bande de Gaza, c'est déjà les justifier. Et ça nous rappelle largement la rhétorique de Manuel Valls à une certaine époque. Et visiblement, il est toujours délicat de dénoncer les exactions de l'armée israélienne, quand bien même on dénonce également les horreurs perpétrées par le Hamas le 7 octobre. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, dans une vidéo diffusée pendant le procès, je cite, « On observe un climat de remise en cause des libertés et de hausse de la répression syndicale depuis le 7 octobre. L'État a rapidement interdit de nombreuses manifestations d'appel au cessez-le-feu, interdictions qui ont d'ailleurs été levées par la justice. » Sophie Binet a également qualifié le procès du jour de procès politique et d'opération de diversion organisée pour discréditer par avance tous les soutiens au peuple palestinien. Après donc une audience longue et éprouvante, le syndicaliste est finalement sorti du tribunal vers 21h. Il était attendu par des dizaines de camarades syndicalistes qui avaient passé la journée devant le tribunal. Et pour la suite, eh bien, le délibéré du procès de la CGT du Nord, du secrétaire général de la CGT du Nord, sera rendu le 18 avril. Encore une fois, donc, merci aux camarades de Rapport de Force pour ce compte rendu qui est beaucoup plus complet que le petit résumé que je viens de vous en faire. Vous pouvez aller lire toute cette histoire sur leur site rapportdeforce.fr. Voilà, donc si vous voulez retrouver l'histoire complète et assez étonnante de ce procès Bayon, en quelque sorte, on pourrait dire.
Bel exemple de criminalisation, encore une fois, du mouvement social. Rapport de Force, en tout cas, un site qu'on peut que vous encourager à aller consulter. Absolument. Et à soutenir aussi. L'écho des luttes, c'est bien d'avoir des médias qui sont pas du côté, qui sont de notre côté de la barricade aussi de temps en temps. Donc allez voir Rapport de Force et puis soutenez-les, on y trouve plein d'infos importantes et intéressantes. Allez, on va faire une deuxième pause musicale dans cette émission Idées Noires. On vous rappelle que vous êtes sur le 102.2 de Radio Canu, la plus rebelle des radios, et puis comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires, l'émission du groupe local de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On retrouve les Arseniques avec Regarde le Monde.
Les bêtes me diront pas, ce monde est crade, j'aurais voulu rester au chaud, j'y sais cru et pas, dès l'amour y'en a pas, la vie c'est show business et le fric se prend pour Dieu, moi je suis riche en millions d'étoiles que le ciel a posé dans tes yeux. C'est ta berceuse, ma chanson le soir, je me confesse. J'ai emprunté la mélodie dans Scarface. Enfoiré de l'ascar à mes combats, je vais donner un sens. Jusque je suis devenu un homme le jour de ta naissance. Regarde le monde, garde l'œil ouvert même dans la brume. Et sache que les serpents ont souvent les plus beaux costumes. Et que les blessures au cœur cicatrisent mal. Surtout que la haine ça peut détruire quand on la maîtrise mal. J'ai plus envie de fuir, je me suis retrouvé, sauvé par l'amour de ta mère. Et ce putain de groove que la rue a approuvé. Et je trouve mon bonheur dans peu de choses quand j'ai trop morflé. J'aime voir ta gueule dans le sourire dans les bras de Morphée. Et on est comme fous, dans un monde sous morphine où les fées tapinent. Et où les anges se morfondent aux fous. Les trempes à nos peurs pour pas avoir l'air lâche. Et maintenant, tu sais pourquoi les hommes se cachent quand ils pleurent, dites. C'est le cœur qui cause. Et ceux qui me critiquent, dis-leur que c'est pas eux qu'on raquille qui gauze. À travers ma pro, j't'explique. Avant de partir ensemble, que je t'aime aussi vrai que je le hais déjà mon futur gendre.
Parler comme des hommes, ça me désole de devoir le faire maintenant, mais dehors c'est des ordres. Je dis pas qu'faut rentrer dans les ordres ou t'isoler. Mais le sujet faut qu'on l'aborde avant que je finisse sous camisole, je suis désolé. La vie faut que tu la mordes à plein dans la corde. Pas au-dessus de la tête, tension quand tu commenceras ton envol. Ouais, beaucoup de mecs t'en veulent. Et tu ne sais même pas, t'as hérité de tous mes biens et de ceux qui ne m'aiment pas. Réfléchis bien avant de te lancer. Vas-y au bluff, fais gaffe aux teufs, suspecte aux keufs qui viennent t'ambiancer. Tu gagneras jamais rien à suivre le troupeau. Hein. On nous a tous trompés à en rire, aujourd'hui on est trop peu. Troque ton armure de caïd pour un cerveau qui raye toutes les merdes de drogue dure genre cocaïne. Faut pas que tu réagisses par saison. Les conseils si à la maison je t'ai pas mis au monde, tu finis en prison. En ce qui concerne les filles, amuse-toi fils. Mais t'amuses pas à tromper celle qui un jour sera ta raison. Il faut être persévérant et pas trop perso. Tu t'apercevras qu'on est vite perdu quand on perd. C'est mieux perçu. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qu'on a beaucoup souffert avant de te mettre bien là où tu es. Ouais, la vie ici est pleine de hauts et de bas. Et si t'en doutes un jour, qui le morceau, j'espère qu'il écoutera. Yeah. J'ai tout ce qui chasse, mes jours gris, ils me font en place. Quand je pars en vrille, quand les calypses mettent à crier, que la vie me glace. Dehors les petits gris, les étapes pillent, emmerdent les billes. Tant que les billes se ramassent, mes clés l'enfer dans leurs pupilles. Regarde ce monde en face, tout ce qui brille n'est pas mort. Et tout ce putain d'or du monde vaudra jamais le sourire de ma fille.
Des joyaux.
ça et le tard d'avenir. Ça doit venir du temps ou des portes, je sais pas où c'est le plan qu'est l'avenir. Dans ce bled où les plus gros bluffs laissent voir l'espoir, ça fait la mal. Avec la chance on prévenir, mais on va faire sans. C'est plus sûr, ce sera plus dur, mais j'ai confiance. Si t'as le regard perçant, alors avant que je tombe, je veux être fier de toi, de l'amour de ta mère. Et si tu te perds un jour, regarde-moi.
De retour sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission du groupe lyonnais de l'Union Communiste Libertaire. Et on est ensemble jusqu'à 21h. Et on va ouvrir une grosse page logement, puisque le 31 mars dernier, c'était la fin de la trêve hivernale. Donc désormais, de nombreuses personnes sont susceptibles d'être jetées à la rue. Un risque d'autant plus grand que notre nouveau ministre du logement est Guillaume Kasbarian, qui est connu pour lutter contre les squats, ces logements de fortune qui servent souvent de dernier recours pour ne pas finir à la rue, dans le froid ou sous la pluie. Et nous, à l'UCL, on a plusieurs revendications, plusieurs actes de lutte pour un droit qui devrait être universel et inaliénable, le droit d'avoir un toit sur la tête.
Et oui, tu le disais, ce 31 mars, c'était du coup la fin de la trêve hivernale, dans un contexte plus que jamais difficile. Et puis du coup, le 1er avril, c'était aussi en réponse l'occasion d'une journée européenne d'action pour le droit au logement, qui a été menée par de très nombreuses associations de défense des mal logés. On vous le dit, contexte de plus en plus difficile, prix des loyers, flambée de l'immobilier, spéculation, expulsion, ségrégation urbaine, lutte contre la gentrification, réquisition des logements vides. Enfin, autant de thèmes qui sont d'actualité et qui sont cruciaux sur le front du logement, auxquels on peut rajouter l'inflation et la hausse du prix de l'énergie qui se conjugue aujourd'hui à celle des loyers et qui font craindre que de nombreux et surtout de nombreuses locataires perdent leur logement en ce début de printemps. Et c'est pour ça que en ce 1er avril, dans ce cadre de cette journée européenne d'action pour le droit au logement, il y a quand même eu 13 manifestations dans 12 villes qui ont été réorganisées pour réclamer un logement digne pour toutes et tous. On le sait, si on s'intéresse uniquement à la France, l'INSEE comptait l'année dernière, à fin 2023, 3 millions de logements qui étaient aujourd'hui inoccupés, soit une hausse depuis de plus de 60% depuis 30 ans, depuis 1990. Et t'en parlais, la loi Kasbarian-Berger, qui porte donc le nom de notre nouveau ministre du logement, qui a été adoptée en juillet 2023, dans une dynamique, comme tu l'as décrit, de criminalisation de la pauvreté, est une loi qui vise en fait à protéger, pour reprendre les termes qu'elle utilise, les logements contre l'occupation illicite, et qui donc vise en fait à considérer les locataires comme des délinquants qui entraînent une accélération des procédures d'expulsion pour les loyers impayés, qui provoque un triplement des sanctions encourues pour les squatteurs et les squatrices, et puis la création d'un délit punissant, là aussi pour reprendre les termes de la loi, la propagande ou la publicité en faveur de méthodes encourageant à la violation de domicile, donc en gros qui vise à criminaliser toute action collective pour s'approprier, ouvrir des lieux et pour socialiser des espaces de logement ou des espaces d'activité collective. On se rend compte du coup dans ce contexte qu'en plus de l'exploitation au travail, les travailleurs et les travailleuses se prennent aujourd'hui la violence capitaliste jusque dans leur logement, et particulièrement pour les habitants et les habitantes des quartiers populaires dont la vie est de plus en plus sacrifiée au bénéfice des marchands de sommeil et des spéculateurs. Et donc en ayant nommé Guillaume Kasbarian, qui est donc le porteur de cette loi anti-squat, comme ministre du logement au début de l'année, le gouvernement dont la moitié, on le sait, sont des millionnaires, montre à nouveau son mépris de classe, son mépris pour les classes populaires, et assume pleinement cette nouvelle loi antisociale. Alors nous, en tant que militants communistes libertaires de l'UCL, de l'Union communiste libertaire, on a un point de vue complètement différent sur la question du logement. puisque nous faisons la promotion de l'action directe des premiers et des premières concernées pour remettre en cause la propriété privée et le marché capitalisme du logement. Un des préalables nécessaires à la construction, ce qui est en fait un des préalables nécessaires à la construction d'un service public socialisé du logement. Et c'est donc pour ça qu'on peut que soutenir l'action des collectifs et des associations de lutte contre le mal-logement, comme historiquement les luttes menées par le DAL, par cette association droit au logement, qui milite depuis le début des années 90 sur cette question-là, y compris par les occupations, y compris par l'ouverture de squats. On considère que la lutte pour l'amélioration immédiate des conditions de vie pourra amener à une rupture, parce que qu'en attendant, il y a des revendications immédiates à porter sur le front du logement. Ces revendications immédiates, c'est le blocage des loyers, c'est la réquisition des logements laissés vides à des fins purement spéculatives, c'est la mise en place d'une taxe dissuasive sur les mètres carrés inoccupés, c'est le respect du SRU qui impose un seuil minimal de logements sociaux aux communes qui reste largement non suivi. Nombreuses communes préfèrent payer des amendes dites dissuasives, mais qui sont dérisoires, plutôt que de se conforter à la norme et de construire les logements sociaux nécessaires sur leurs communes. C'est l'isolation du bâti afin de minimiser aussi la facture énergétique des locataires et des factures qui s'envolent en termes d'énergie, de logement et puis des normes environnementales élevées. C'est l'accès aux logements sociaux pour les personnes sans papier. C'est le fait de revendiquer qu'il n'y ait pas d'expulsion des bidonvilles sans que derrière il y ait un relogement social durable qui prend en compte les situations des familles. C'est un contrôle renforcé pour détecter et sanctionner les marchands de sommeil. C'est une réelle politique d'accompagnement qui est renforcée pour les personnes sans abri afin de ne laisser personne à la rue. C'est aussi une augmentation des capacités des hébergements d'urgence pour les sans-papiers, pour les sans-abri avec ou sans papiers, mais également pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui ont souvent besoin d'être logées en urgence. On rappellera qu'un sans-abri sur quatre en France est passé par les services sociaux, qu'il faut plus de moyens aujourd'hui pour la protection de l'enfance, qu'il faut qu'un toit et un revenu pour chaque jeune puisse être autonome et se retrouve pas à la rue. Enfin voilà, c'est autant de revendications qui sont aujourd'hui très concrètes, qui ne sont pas des revendications révolutionnaires, mais qui sont des revendications nécessaires et urgentes et qui peuvent construire peut-être un jour un rapport de rupture sur la question de la propriété privée du logement, mais en tout cas qui aujourd'hui sont des urgences sociales pour lesquelles on se bat, nous militants communistes libertaires, et qu'on tente de mettre en avant et qui explique pourquoi on était dans la rue ce 1er avril pour le droit à un logement digne pour toutes et tous. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel qui conçoit. Voilà ce qu'on voulait dire sur le front du logement. Et puis, c'était une approche globale et générale en cette période où vont démarrer les expulsions. Et puis, les expulsions, elles ont déjà commencé. Quand la France s'ouvre au monde, elle essaye de cacher sous le tapis certaines personnes, de les mettre, les dispatcher aux quatre coins de l'hexagone ou de les expulser. On parlera tout à l'heure des étudiants expulsés de leur logement universitaire pour faire place pour les Jeux Olympiques. Et puis, les sans-abri.
Oui, oui, à ce sujet, depuis près d'un an, c'est à Orléans qu'on voit passer un défilé d'autocars environ toutes les trois semaines, avec à l'intérieur une quarantaine de sans-abri, souvent des migrants. C'est ce qu'a récemment raconté dans les médias le maire d'Orléans, Serge Grouard, qui a demandé des explications à Darmanin, et apparemment il n'a eu droit qu'à des réponses floues. Tout ce qu'il sait, je cite, c'est que ces sans-abri sont pour la plupart des migrants qui sont pris en charge par une association conventionnée par l'État pendant une période assez courte, d'environ trois semaines. Et comme les structures d'accueil, les structures d'hébergement d'urgence sont saturées à Orléans, ils sont le plus souvent redirigés vers des hôtels. D'après le maire, certaines de ces personnes ont aussi pu être envoyées en rétention administrative, donc les CRA dont on parlait tout à l'heure. Donc plutôt que d'être logées, ils et elles sont en fait privés de liberté carrément. Et d'après lui, même s'il n'en a pas la certitude, tu l'as évoqué, David, ça pourrait avoir un lien avec les JO. Donc un petit peu comme ce que Paris fait avec ses étudiants bénéficiant d'un logement au Crous, comme tu vas nous en parler tout à l'heure. Et voilà. Et donc à ce moment-là de l'histoire, pour en revenir à Orléans, on pourrait se dire que le maire est un gars sympa, qu'il trouve choquant qu'on déplace des gens de ville en ville, de centre en centre ou de la rue à la prison pour certains. Sauf que tout ce qu'il trouve à commenter à ce sujet, c'est que, je cite encore, Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline du crack, c'est charmant, hein. Donc pour lui, les personnes à la rue sont des parasites. Il ne veut finalement pas dénoncer un traitement inhumain. Il veut simplement que ça ne se passe pas dans sa ville et sous son nez. Et ça tombe bien parce que ça ne se passe pas que sous sa ville, que dans sa ville et sous son nez. Puisqu'après Orléans, c'est la dépêche du Midi qui révèle que c'est la situation est la même à Toulouse. Et ce, depuis le mois d'avril 2023. D'après la préfecture contactée par la dépêche, ce sont 487 personnes qui ont rejoint des SAS d'accueil toulousains, comme ils disent, SAS d'accueil qui lui dispose de seulement 50 places. Au niveau national, d'après eux, ce sont plus de 3800 personnes qui ont quitté Paris et sa région pour la province depuis environ un an. Dans la dépêche, on peut justement lire le témoignage d'Ali, une de ces personnes déplacées. Les policiers sont arrivés à 7h du matin, ils nous ont dit « montez dans le bus ». On n'avait pas le choix. Ce réfugié soudanais était envoyé en banlieue de Toulouse et aurait appris sur la route qu'il partait pour la Ville Rose. Sur place, il a été emmené dans ce fameux SAS et quelques heures après son arrivée, il a appris du responsable du centre d'accueil qu'il ne pourrait pas rester plus de 4 jours. La Fondation Abbé Pierre Occitanie confirme d'ailleurs que certaines personnes sont déjà reparties à Paris depuis leur passage à Toulouse. Et c'est le cas justement d'Ali qui, 4 jours seulement après son arrivée à Toulouse, était déjà de retour dans un des squats insalubres près de Paris. D'après une source associative, tout ce fonctionnement est bien évidemment très opaque et n'est pas réalisé en lien avec les acteurs et actrices du terrain. Mais pour en revenir donc au lien avec les JO, d'après le journal Le Monde, une circulaire du gouvernement parlerait de sas d'hébergement, encore eux, temporaire pour les migrants qui ont effectivement été créés en province pour désengorger l'Île-de-France. D'après le collectif Le Revers de la Médaille, qui regroupe des associations, des acteurs et actrices de la solidarité, qui alerte sur l'impact social de l'organisation des JO et des Jeux Paralympiques, il y a un lien évident avec les JO. Fait étonnant, le site démantelé près de Paris où vivait Ali avec 50 autres personnes se situait justement à proximité du futur village des athlètes des Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis. Et puis enfin, la question du timing, hein, puisque cette circulaire est sortie justement au moment de l'organisation des JO, même si le gouvernement a déjà nié à plusieurs reprises qu'il y avait un lien.
Et puis dans le même tonneau et dans la même dynamique, devinez, un chèque de 100 euros et 2 billets d'entrée pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est ce qui est proposé à qui ? Bah aux étudiants, pour qu'ils libèrent leur studio. Enfin, ce qui est proposé, c'est ce qui est donné aux étudiants en échange de la sommation de quitter leur logement étudiant. Ça pourrait apparaître comme une blague, mais non, c'est bien la réalité. Tiens, tu prends 100 balles et un mars et tu te tires. C'est aujourd'hui ce qui se passe, puisque c'est ce chèque de 100 euros et ces 2 billets d'entrée pour les JO. C'est très concrètement ce qui est proposé à près de 3000 étudiants et étudiantes précaires qui sont forcés de quitter avant le 30 juin prochain leur studio dans les résidences du Crous. On rappellera que le Crous, c'est les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Ça se passe bien sûr en banlieue parisienne. Et en réalité, c'est 3263 logements étudiants qui doivent être réquisitionnés dans le cadre des JO pour y accueillir des policiers, des pompiers ou encore du personnel médical à proximité des sites sportifs et qui s'y installeront donc, jusqu'à la fin du mois d'août à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Du coup, ces étudiants sont sommés de partir. Bien évidemment, ces studios qui sont réquisitionnés pour accueillir les fonctionnaires, ils sont pourtant habités parfois depuis de longues dates, plusieurs années, par des étudiants qui sont en poursuite d'études. Et ça passe mal, en toute logique, de se sentir expulsé comme ça. Et un collectif de jeunes concernés s'est formé pour protester, tandis qu'un recours en justice contre ces expulsions a été aussi initié à la fois par le syndicat étudiant UNEF et par Solidaires étudiants, afin de soutenir donc ces étudiants dans leurs droits face à cette mesure qui est complètement inique d'expulsion. On sait que, on comprend très bien qu'aujourd'hui, du côté des étudiants, c'est l'inquiétude qui domine. D'abord parce que l'aspect financier, 100 euros, c'est dérisoire pour des gens qui, par exemple, habitent depuis 2 ans dans un logement du CROUS, qui ont accumulé un certain nombre de choses, qui sont dans une situation de précarité et qui ne sont pas assez riches pour gérer un déménagement aussi brutal, ni même se retrouver un autre logement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Retourner chez papa et maman, mais tout le monde n'en a pas les moyens, tout le monde n'en a pas l'envie, tout le monde n'en a pas la possibilité. En tout cas, c'est tout simplement accentuer la précarité en milieu étudiant. Et là aussi, c'est faire place nette pour accueillir le monde, pour une politique de prestige. On va encore une fois précariser un peu plus ceux qui sont les plus pauvres. Voilà, je crois qu'on n'est pas à la fin de nos surprises de cette politique inique et de prestige qui va être faite sur le dos des classes populaires en prévision de l'accueil des Jeux Olympiques cet été. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans cette émission.
On peut noter l'ironie quand même d'offrir des billets pour un événement qui va se passer dans une ville dans laquelle ces étudiants ne peuvent plus se loger.
Voilà, où est-ce qu'ils iront dormir le soir ? Sous le pont ou dans le métro ? Un peu, c'est comme tu dis, c'est quand même assez cynique. Allez, il nous reste 5 petites minutes dans cette émission. Un petit point sur les luttes autour des grands projets d'aménagement, sur les questions d'écologie.
Oui, on va ouvrir une petite page écologie avec... Pardon, j'ai perdu ma page, ça y est, je l'ai retrouvée. Avec un petit tour du côté de l'A69, on l'a déjà évoqué rapidement dans cette émission, il s'agit d'un projet écocide et pas franchement utile, on ne va pas revenir sur tout le projet, non. Ce que je voulais vous raconter ce soir, c'est une petite histoire dont on peut suivre l'évolution sur le site Reporter. Voici donc un drame en 3 actes dans la plus pure tradition du théâtre grec. Acte 1. Qui est le président de la commission d'enquête parlementaire devant étudier le montage juridique et financier du projet ? Eh bien, on a appris début mars qu'il s'agissait du député Renaissance du Tarn, Jean Terlier. Premier rebondissement, donc, ce monsieur est marié à une cadre du groupe Pierre Fabre, géant pharmaceutique français qui œuvre depuis près de 30 ans à la réalisation de l'autoroute. Son statut de président de cette commission pourrait lui permettre donc d'échapper à toute audition visant ce possible conflit d'intérêts. Et dans la dépêche du midi, évidemment, Jean Terlier dénonce lui une campagne médiatique dégueulasse ne visant qu'à le salir. Évidemment, c'est un peu à la manière d'un fillon. Il dit vouloir protéger sa famille, mais on a déjà entendu cette petite chansonnette. Acte 2, à la mi-mars, on apprend que Pierre Fabre reconnaît avoir financé le projet de l'A69. On avance donc. Le groupe a révélé avoir pris en août 2023 une participation minoritaire dans le capital du concessionnaire à Tosca. Le site Reporter précise qu'il avait déjà montré en octobre 2023 comment ses intérêts industriels avaient été à la manœuvre depuis des années pour imposer l'autoroute. Le groupe se défend en précisant qu'ils n'ont participé qu'à hauteur de 8,6 millions d'euros, soit une petite goutte d'eau dans l'océan des 450 millions d'euros du projet. Dans un communiqué, les opposants dénoncent le fait que M. Terlier est un acteur clé du projet de l'A69. Son rôle et ses liens avec le groupe Pierre Fabre, partie prenante dans la concession, doivent pouvoir être interrogés. Sauf que, comme on l'a vu dans l'acte 1, en tant que président de la commission d'enquête, il échappe à toute audition. Acte 3, fin mars, le déontologue de l'Assemblée nationale a pris une décision quant au possible conflit d'intérêts. Il n'y en a aucun, compte tenu notamment du lien distendu entre les fonctions de l'épouse et l'objet de la commission d'enquête. Parce qu'on le sait, la bonne dramaturgie grecque se finit toujours mal. D'après lui, d'après le déontologue, le couple ne retire aucun profit de ces arrangements, et je cite, « Le risque que l'exercice de votre mandat parlementaire soit influencé ou puisse paraître influencé par la profession de votre épouse ou par les prises de participation de l'entreprise